Donc, c'est ce qu'on va parler avec Sylvain Duclos, spécialiste en éducation. Immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 102. Présentement 13h04, c'est à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission On en jase. Va suivre le retour de Gravel avec Denis Véro et Max Larouche en remplacement d'Audrey Pinchot. Pour les deux prochains jours et demain matin, bien c'est moi avec Pascal CV et Max Larouche qui va reprendre le collier en l'absence d'Yannick Marceau qui sera de retour le 12 janvier. Pascal, on en parlait avant la pause. Moi, je m'ennuie de mon école de quartier. M'ennuie de l'école de quartier parce que c'est là qu'on se faisait des amis. Mm. C'était pas compliqué. Nos parents nous inscrivaient. On s'en allait à l'école. On était avec nos voisins. Puis on s'amusait autant à l'école qu'à la fin de semaine. On avait du monde à appeler, on allait jouer dehors, on faisait des forts dans la neige. Puis là, je te raconte mon histoire, c'est que je me suis rendu compte, depuis que je vis dans la même maison avec Val, que ses enfants, en raison de programmes particuliers dans leur école primaire, sont pas nécessairement à leur école de bassin. Et ça fait en sorte que la fin de semaine, ils s'en cherchent eux autres des amis.
Ils peuvent plus y aller à pied, ils peuvent plus faire un regroupement comme par avant.
Compris.
Ça formait des liens plus facilement. Mais en même temps, Jeff, là, tu sais, si t'as à choisir entre continuer le développement de son enfant dans peut-être une technicalité qui est vraiment ajustée à où il est rendu dans son parcours, pas le faire attendre un an parce que là, bon, il a à mettre à niveau une gang de petits tannants même année pendant le même nombre de temps. Tu te mets à réfléchir, tu te dis, bon, ben, les amis, il y en aura au parascolaire ou je ferai des livres. C'est complexe être parent maintenant. Là.
C'est très complexe. Et puis là, bien, je suis tombé là-dessus dans le temps des fêtes, un article qui expliquait qu'il y a des jeunes qui, dès la maternelle, passe des tests d'admission pour des programmes particuliers aux primaires. Alors, j'ai pensé à notre ami Sylvain Duclos, puis je me suis dit, faut absolument que je parle de ça avec Sylvain, parce que j'ai horreur, et là, je me positionne personnellement, j'ai horreur qu'on catégorise les enfants à bas âge. OK, toi, t'es assez bon pour être au programme international. Non, non, toi, tu vas être un joueur de hockey. Non, non, toi, tu vas être dans une classe particulière. Et ça, j'ai horreur de ça à l'école comme j'ai horreur de ça dans le sport.
Puis c'est super tough parce que tu dis, ils sont tellement jeunes, Jeff, ils devraient pas être catégorisés tout de suite.
Exactement.
Moi, j'ai pensé que le ski était, impossible à pratiquer dans ma vie en secondaire 1. Parce que je me dis, hey, je suis rendue trop vieille, ils ont tout commencé au primaire. Là, tu es en maternelle puis tu serais trop vieux faire quelque chose parce que tu n'aurais pas le même niveau d'éducation, le même niveau de connaissance qu'un autre enfant.
Hey, c'est tellement drôle ce que tu amènes là parce qu'il y a plein d'enfants que j'ai connus, d'amis de mes garçons qui ne jouaient pas au hockey sur glace puis je leur disais, rendu à 13-14 ans, hey, inscris-toi, je vais te coacher.
Hein, ben
non!
Encore.
Ben non, je peux pas.
C'est fou.
Je serais pas assez bon. Eh ben non, Krim, tu es capable de faire du sport.
Mais imagine, il y a 13 ans. À 33, ça va quand même faire 20 ans qu'il pratique le sport si jamais il commence pareil.
Exactement. Puis j'ai un de mes amis qui a commencé à garder filet à 24-25 ans. C'est sûrement le meilleur gardien de but de décorqué de la province présentement. Il a commencé à 25 ans. Fait que c'est pas pire.
Ça se peut qu'il ne fasse pas une carrière, là. Hein?
Non.
Ton chum, il en fait
pas ça. Non, il ne fait pas une carrière, mais il est juste bien bon. Puis quand
il adore ça.
Ouais, puis quand on joue contre lui, on a juste bien de la misère à y scorer des buts, puis ça nous énerve.
Mais d'abord, va-t-il falloir qu'on se vous voit?
Ah, je sais pas. C'est une bonne question. Sylvain Duclos, enseignant, qui est au bout du fil. Sylvain, est-ce que je peux te tutoyer ou je dois te vouvoyer compte tenu que tu es un enseignant? Oh! Ah, c'est de ma faute.
C'est l'autre ligne, il n'y a pas de problème.
Non, c'est de ma faute. Sylvain, est-ce que tu es là?
Oui, je suis encore là.
Ah,
on
excellent.
On peut tutoyer, il n'y a pas de problème.
On peut se tutoyer. Ah, je suis content, prof Duclos, de pouvoir te tutoyer. Sylvain, si on fait la parenthèse rapidement sur le vouvoiement, ça entre en fonction à compter d'aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait des enseignants et des enseignantes du préscolaire qui disaient « ça n'a pas de sens, ça va éloigner, ça ne créera pas le lien de proximité ». Bref, j'ai l'impression que les professeurs vont l'appliquer s'ils se doivent de l'appliquer.
Ben, les écoles devaient mettre ça dans leur code de vie pour aujourd'hui, que ce soit en fonction dans les écoles. Mais les écoles qui avaient à le mettre en place, la plupart l'ont déjà fait en septembre parce qu'on ne change pas de façon de se faire appeler avec les élèves en plein milieu de l'année. Ça n'a juste pas de sens. Hein. Puis je pense que ça va aller vraiment selon la logique des enseignants et des écoles. Il y en a qui vont être un peu plus stricts, d'autres qui vont pas mettre d'énergie là-dessus. Fait que je pense qu'on fait beaucoup de vagues pour pas grand-chose aujourd'hui.
Oui, il y en a plusieurs qui disaient qu'ils allaient l'appliquer à la rentrée scolaire à l'automne prochain, qui trouvaient ça un petit peu complexe aussi. Est-ce que tu trouves ça complexe, toi, pour ta part, quand on vient, qu'on nous sert l'argument que, bon, pour certains jeunes, ils apprennent les pronoms, donc là, il ne faudrait pas les mélanger entre un « tu » plus singulier puis un « vous » qui est plutôt englobant là, à plusieurs personnes pour leur faire comprendre un peu ces pronoms-là, ou ça ne fait pas vraiment de différence dans ta tête?
Ben, je pense qu'au primaire, les premières années du primaire, c'est un peu plus complexe, surtout que dans la plupart des écoles, c'était déjà, supposons, Madame Mélanie ou Madame Jocelyne. Là. Donc, au final, on rajoute juste le « vous ». Est-ce que c'est vraiment plus respectueux? Pas certain. Au secondaire, ça a peut-être plus d'impact. On pense, entre autres, aux jeunes qui vont avoir des emplois étudiants, etc. Donc, ça peut être un bel apprentissage pour leur vie citoyenne. Je pense que c'est surtout là l'enjeu, pas mal plus que pour « est-ce que je respecte ou pas mon enseignant? » Parce que les jeunes savent être respectueux ou pas en vous voyant ou en tutoyant, mais la plupart vous voient déjà par défaut.
Ils peuvent envoyer promener un prof en le vous voyant aussi. Là.
Ah, ça fait bien. Je l'ai déjà vécu là, dans les premières années dans une école où il y avait le vouvoiement. Je me suis fait dire allez-vous.
C'est vraiment oui. Oui.
Ah, c'est ça, oui, exactement. C'est ça. Ça empêche pas. Si les jeunes sont très imaginatifs.
Ah oui, ils sont capables hein, quand ils ont une idée dans la tête. Puis nous autres aussi, on est vraiment capables. Mais Sylvain, est-ce que... En tout cas, moi, la problématique qu'on m'a le plus évoquée là-dedans, c'est le fait que le gouvernement essaie trop de s'immiscer dans les classes. Puis, bon, c'est un peu le même discours au niveau des cellulaires dans les établissements scolaires, tout ça. Finalement, ça a servi. Il semble avoir une quasi-majorité de personnes, dont les jeunes, qui sont d'accord avec l'interdiction des cellulaires dans les établissements scolaires. Ça semble avoir même aidé énormément au niveau social et d'avoir fait un changement du tout au tout, en fait, dans les écoles. Mais ce qu'on réclamait le plus, c'est d'avoir une liberté d'agir au niveau de l'école en soi, et non de la commission scolaire qui se fait appliquer tout et partout la même façon de faire. C'est tout ça qui est encore déploré dans le vouvoiement?
Bien, le vouvoiement, c'est qu'on essaie d'appliquer mur à mur une consigne, puis c'est on va chercher un électorat de cette façon-là. On produit, on sera d'accord ou pas, ça reste que ça va chercher des personnes plus âgées qui vont dire « Ah oui, le gouvernement ramène les choses comme c'était avant, puis c'était mieux avant. » Ça demeure ça, alors que, par exemple, si on revient à l'histoire du cellulaire, bien, si on avait donné aux écoles les moyens de faire appliquer les codes de vie puis les interdictions par rapport au cellulaire, on se rappellera qu'un cellulaire qui est confisqué, on doit le remettre à l'élève à la fin de la journée. Là. Donc, l'élève, au final, il perd pendant une pause ou un midi, c'est tout. Bien, si on avait donné les leviers aux écoles de faire ces interdictions-là, on aurait pu probablement arriver au même résultat. Maintenant, c'est positif. Dans les écoles, c'est la même chose. On peut dire... On aimerait avoir le vouvoiement, mais est-ce qu'on a notre besoin d'aller imposer à la petite école primaire de telle municipalité de faire le vouvoiement ou ça ne devrait pas venir d'un choix de l'équipe école et des parents sur le conseil d'établissement? Moi, c'est plutôt cette option-là que je choisis.
Oui, parce que quand on regarde la centralisation en général, Sylvain, au niveau de l'éducation, on se porte moins bien dans les écoles à l'heure actuelle que lorsque il y avait plus de latitude et d'autonomie au sein des directions et du personnel enseignant. Est-ce que je me trompe?
Bien, on est de plus en plus centralisé. Est-ce que ça va moins bien? Pas prêt à dire ça, mais ça va pas mieux, ça c'est certain.
Oui, exactement. Hey, Sylvain, tu parlais justement de la belle époque, puis tu disais, on vient chercher de l'électorat en mentionnant qu'on va mettre le vouvoiement dans les écoles comme c'était à l'époque. Moi, je le disais d'entrée de jeu, je m'ennuie de mon école de quartier. M'ennuie du fait qu'il n'y a pas de programme particulier en tant que tel. Les jeunes vont à l'école, au primaire, s'amusent, se font des amis, créent des liens sociaux. Je suis trop vieux jeu, moi, ou j'ai quand même un bon point là, de dire j'aimerais mieux avoir des écoles de quartier que plein de programmes spécialisés aux primaires avec des jeunes qui passent des tests d'admission à la maternelle?
Écoutez-moi, les histoires de tests d'admission aux primaires en maternelle, ça vient me chercher et jusqu'à un certain point, ça me scandalise. Ça fait longtemps que je sais que ça existe, mais de le voir nommé comme ça, puis dès la maternelle, ça vient me chercher parce que l'émission de l'école, c'est pas juste d'apprendre des connaissances. C'est aussi de développer des compétences, de socialiser les jeunes. Et à quel point est-ce qu'on socialise nos jeunes lorsqu'on les met toutes des jeunes pareils ensemble et qu'on efface les inégalités en disant, ben, tous nos élèves qui sont performants, on va les mettre ensemble puis on va s'assurer que les jeunes qui sont moins doués, puis là, je mets des gros guillemets à l'oral là-dessus, ben eux, ils vont pas ralentir le groupe. Parce qu'au final, lorsqu'on évalue des jeunes en décembre de leur maternelle, ben on évalue des jeunes qui ont été à l'école pendant 3 mois d'école.
Donc
finalement, on vient d'évaluer le soutien social, familial et économique de nos jeunes.
Est-ce qu'on n'est pas en train, en plus, de créer une plus grosse fracture entre les différences de développement chez les enfants selon dans quelle famille tu es né? Je m'explique. Un enfant qui a un petit peu moins de moyens parental, des parents qui prennent moins de temps de travailler, de développement, etc., pour toutes les raisons du monde, qui arrive à l'école, il arrivait enfin dans un genre de bassin où il pouvait partir à zéro, au même taux d'égalité, tiens, que les autres enfants. On n'est pas en train de créer une compétition puis même un débalancement à ce niveau-là?
Bien, on vient de créer un débalancement puis on vient de l'accentuer parce qu'au final, ce qui se passe, c'est que dans une école primaire où, supposons, on avait plusieurs élèves doués puis qui, eux, s'en vont tous, on va dire, à l'école internationale, pas loin, bien, les jeunes qui nous restent dans la classe sont tous les jeunes qui ont des difficultés. Donc, l'enseignante qui va être avec eux en première année, bien, elle va avoir 18 jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage, et c'est là qu'elle ne fournit pas à répondre à leurs besoins parce qu'ils sont tous ensemble. Donc, il n'y a pas d'émulation positive entre les élèves, il n'y a pas d'élèves qui peuvent aider les élèves moins forts. Puis, quand je vous écoutais parler d'entrée de jeu, bien, au niveau des liens d'amitié aussi, bien, nos jeunes, bien, ils se lient d'amitié entre eux, les forts ensemble, puis les faibles ensemble, puis il n'y a personne qui se remonte vers le haut.
Est-ce que c'est le genre d'application qu'on souhaite faire pour peut-être venir aider le problème qu'on a créé il y a quelques années en mélangeant dans les classes, bon, des enfants à besoins particuliers, des enfants qui avaient des troubles de comportement, des enfants qui avaient un cheminement peut-être plus régulier, puis des enfants plus forts aussi. Tu sais, on avait dit, on va mélanger là, tous les genres, tous les cheminements ensemble, puis ça va créer un genre d'effet qui va remonter tous les jeunes vers le haut. Ça a été un échec total. On le voit, les profs sont débordés parce qu'on n'a pas de ressources qui sont venues aider dans les classes. Quand il y avait un enfant qui se désorganisait, par exemple, ben, le prof doit maintenant arrêter sa classe pendant 30 minutes, ça dure 30 minutes, s'en occuper. Pendant ce temps-là, les autres payent, en fait, pour le temps, la classe qui est arrêtée. Puis là, on s'est dit, merde, on l'a échappé avec cette façon de faire-là. Est-ce qu'on souhaite ne pas l'échapper à la maternelle, mais finalement, on crée un problème parce que c'est deux clientèles différentes?
Bien, en fait, ce qu'on a voulu créer lorsqu'on a eu la réforme, c'est qu'on a fermé beaucoup de classes de cheminement particulier, puis on a intégré ces élèves-là dans les classes dites régulières. Puis je comprends les parents qui, jusqu'à un certain point, se disent, bien, mon jeune, je veux qu'il avance, puis je veux qu'il ait son plein développement. Là, les parents ils ont fait, bon, bien là, ça commence à être compliqué dans les classes, donc on va sortir nos jeunes les plus doués, qui ont plus de facilité des classes. Au final, on a intégré d'un côté, mais on a ressorti les élèves de l'autre côté. Et effectivement, c'est un échec lamentable jusqu'à un certain point. L'intégration aurait dû être faite jusqu'au bout avec les ressources nécessaires. Et en ce moment, ben, on se soupoute avec nos conventions collectives, les enseignants, des ressources additionnelles, les psychologues, les orthopédagogues, etc., un peu partout dans le réseau, au primaire, au secondaire, hein, alors que normalement, si nos jeunes avaient l'appui dont ils ont besoin dès les premières années du primaire, hein, on ne devrait pas en avoir de besoin au secondaire parce que nos jeunes auraient des assises qui sont solides. Et là, ils traînent des difficultés sur le long terme. Puis moi, je ne blâme pas les parents qui choisissent une école comme l'école internationale pour leurs jeunes parce qu'ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Ils essaient de sortir leurs jeunes du réseau pour pas qu'ils perdent son temps. Mais il faut avoir une réflexion plus large sur la qualité de ce qu'on donne dans le réseau puis le soutien qu'on donne à nos jeunes.
En effet, je suis tellement d'accord avec toi, Sylvain. Puis, pour moi, l'école, c'est pas juste des notes sur un bulletin, c'est aussi des valeurs enseignées à nos enfants. Et je trouve qu'on a perdu la valeur de la responsabilisation. Et je m'explique. Moi, j'étais bon en mathématiques, j'étais moins bon en français. Bien, dans ma classe de sixième année, on était 32, là. Bien, j'aidais les gens en maths, puis j'en avais d'autres qui m'aidaient en français. Donc, il se créait une chimie entre tout le monde qui faisait en sorte que la classe fonctionnait bien. Est-ce qu'on a perdu ça dans nos écoles, le fait de responsabiliser justement nos enfants?
Bien, je vous dirais qu'on a peut-être un petit peu perdu cette idée de penser en dehors de la boîte. Puis je pense que ça aiderait beaucoup nos jeunes. Puis on essaie de calquer le modèle du secondaire. Puis là, la question de l'école à trois vitesses au secondaire, c'est une autre question dans laquelle on n'ira pas. Mm-hmm. Puis là, on commence à essayer de le calquer au primaire. On dit nos jeunes qui sont doués, mais il ne faut pas qu'ils perdent leur temps. Moi, mes filles sont très douées à l'école. Je les ai pris sous mon aile dans leur jeune développement, puis ça va bien à l'école. Mais Mes filles n'ont pas besoin d'avoir de l'enrichissement dans la classe. Lorsqu'elles ont de l'avance, par exemple, l'enseignante les envoie dans une classe d'un niveau inférieur pour aider les jeunes en lecture. Elles sont hyper fières, puis elles développe des nouvelles compétences par rapport à ça. Puis moi, je trouve ça génial.
Oui, justement, Sylvain, moi aussi, je trouve ça génial que ça se fasse encore dans les écoles. Puis tu viens là d'aborder là, justement une thématique que j'adore. Tu sais, tu disais tout à l'heure, bah, je peux pas en vouloir aux parents de vouloir le mieux pour leurs jeunes. Mais en même temps, si on se donne pas la chance de développer les compétences des jeunes qui ont peut-être des difficultés en première et en deuxième année, deviendront jamais l'enfant performant en sixième année, alors qu'avant, j'ai l'impression qu'avec l'école de quartier, on avait cette possibilité-là d'amener les gens vers le haut.
Bien, tout à fait, on avait cette possibilité-là, puis les jeunes ont la possibilité de se développer tout au long de leur parcours scolaire, puis des fois, moi j'aime bien dire, c'est pas toutes les grains de pop-corn qui éclatent en même temps dans le micro-ondes, là. Bien là, c'est la même chose, c'est pas parce que ton grain de pop-corn il a éclaté en maternelle, que l'autre à côté va pas éclater en quatrième année. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de difficultés à l'école jusqu'en première secondaire. Je suis enseignant, puis j'ai fait mes maths fortes, là. Fait que, hein, les fameuses maths fortes dans le temps. Donc, tu sais, j'ai éclaté, mais j'ai éclaté plus tard. Puis avoir été mis de côté comme ça, je suis pas certain ce que ça avait donné à l'époque sur mon cheminement scolaire.
Mais j'ai l'impression qu'on inculque un peu la performance trop tôt dans la vie de ces jeunes-là, dans une génération qui, depuis quelques années quand même, là, croule sous l'anxiété, le stress de performance. Ils ont beaucoup d'activités parascolaires, etc. Puis en même temps, je suis déchirée parce que c'est l'époque à laquelle le cerveau est une éponge. Donc, les jeunes peuvent encore, dans le divertissement, apprendre tellement, forger leur cerveau et tout ça. Je me suis juste demandé pourquoi on s'est rendu là. C'était quoi l'exigence de se rendre là? Comment ça se fait qu'on est rendu avec des tests d'admission à la maternelle pour ces jeunes-là? C'est-tu parce qu'on arrivait de tout acabit, le Montessori, le CPE, la garderie familiale ou juste à la maison, puis les enfants étaient vraiment pu développer de la même manière puis arriver à des niveaux complètement différents?
Personnellement, je pense que c'est parce qu'on s'est mis le doigt dans une logique marchande par rapport à l'éducation, puis on veut le meilleur pour nos enfants. Donc, on a calqué le modèle du secondaire sur les écoles primaires. J'ai une amie qui me disait récemment que dans certaines écoles privées, les parents demandent déjà à partir de quand est-ce que je peux inscrire mon enfant. La femme est enceinte, puis elle se questionne à savoir si elle peut inscrire son enfant à l'école privée ou au secondaire. Donc, on voit qu'il y a une espèce de logique marchande qui est déjà inculquée là, chez certains parents qui veulent vraiment à tout prix avoir des jeunes très performants.
Sylvain Duclos, merci infiniment pour ta collaboration à l'émission d'En jase à Boulevard 102. On se reparle prochainement parce que l'éducation fait vraiment partie des valeurs en société très, très, très importantes.
Merci à vous de me joindre.
Good. Merci, salut Sylvain, salut. Merci beaucoup. Hey, on a des excellents commentaires, notamment sur Twitch. On demande jamais aux enfants ce qu'ils aimeraient. On prend toujours les études des X, Y, Z spécialistes et ils décident à la place de nos enfants ce qu'ils aiment ou devraient aimer. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans et je t'explique. Elliot, il avait son école de bassin au primaire. Et pas loin de chez nous, il y avait aussi une école qui avait un programme d'études internationales. Puis, on l'a envoyé, comme tous les parents font, en se disant « Ah ouais, ça serait peut-être le meilleur pour notre enfant. » On l'a envoyé faire ces fameux tests d'admission-là. Ouais. Écoute, il n'était même pas en maternelle. Là. Il s'en allait à la maternelle. Il a fait des tests d'admission. Il a passé les tests d'admission. Mais je l'ai amené aussi à la réunion de son école de bassin. Et son école de bassin, c'était axé sur plus d'activités physiques. Fait qu'on est revenu à la maison, même si mon petit pote avait 4 ans, j'ai dit « Eliott, qu'est-ce que tu as le goût? T'as-tu le goût d'aller à la place où t'as fait les tests d'admission ou t'as le goût d'aller à l'école où t'es allé en réunion? » Et il m'a répondu, « Moi, papa, je veux bouger. Donc, je veux aller à cette école-là. » La catastrophe qu'on a vécue, moi et la mère des enfants, l'école de programme international a dû nous rappeler 4 fois pour nous dire, « Bien là, vous êtes sûr? »
Voyons, ça avait une pression, OK.
Ça nous est jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un qui ait dit non. Votre enfant est ennemi, là. Hey, imaginez l'avenir que vous allez donner. On s'est fait casser les oreilles, mais nous autres, tout ce qu'on voulait, c'était de dire, Eliott, il y a le goût d'aller bouger. Ben, vas-y, bouger, man. T'as 4 ans.
Je suis divisée. Moi, je suis pas parent, OK? Fait que je vais aller avec plutôt mon expérience personnelle. J'ai la chance d'être née dans une famille extrêmement aimante, OK, Jeff? Mais on était trois filles, nous autres. Puis on était trois filles et on se développait beaucoup à la maison par la qualité sociale, la qualité chez l'autre. C'était très humain, moi, dans mon foyer. C'était moins sportif un peu. On était sportifs dans la danse, mes soeurs ont fait du soccer et tout ça. Puis moi, j'étais très tournée vers mes livres, vers mes Barbie plus jeunes, jouer avec mes amis. Puis le sport, c'était pas très présent dans ma vie à moi. Puis donc, j'ai pas vraiment développé d'enthousiasme à bouger. Ça a pris du temps. Même le soccer, je me rappelle au terrain de jeu, ça me faisait suer quand c'était ça l'activité du jour. Moi, tout ce qui était camp de sport, tu m'aurais fait manger du boudin chaque jour, ça aurait été mieux et tout ça. Puis c'est vraiment par la méconnaissance, puis je me rends compte par le manque de sentiment d'estime de moi-même, parce que je me disais, j'ai tellement jamais touché à ça que j'ai pas pu développer les capacités
Je comprends.
Puis les jeunes filles avec qui je me tenais à ce moment-là, c'était pas des sportives non plus, peut-être un petit peu moins bonnes avec les ballons. Puis à un moment donné, en grandissant, je me suis rendu compte, ah non, je suis bonne. J'ai joué au rugby. Ah, OK, non, j'ai des capacités. J'ai fait du cheerleading pendant un bout. Et
là, tu viens de monter le Kilimanjaro, fait que ça va mieux.
Puis je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu beaucoup à ce qu'on ne me pousse pas, qu'on m'oblige pas au niveau parental à en pratiquer une activité physique parce que j'avais des parents qui, bon, un avait un petit peu plus l'application, ben, elle va faire ce qu'elle aime. Puis un qui avait un peu plus l'application, ben, ouvrons tous ses horizons. Je veux au moins qu'elle fasse une saison de ci, ça, ça. Si elle aime pas ça, il faut qu'elle finisse sa saison, c'est un engagement. Mais après, elle pourra choisir autre chose. Au moins qu'elle trouve sa passion. Fait que de là, moi, j'ai perdu la possibilité de faire du ski, etc. Parce qu'on ne m'a pas poussée. On respectait tellement ce que je voulais. Fait que c'est pour là que je suis un petit peu déchirée parce que je sais que...
C'est intéressant ce que tu parles.
J'ai pas été amenée à développer toutes mes compétences. Puis jeune, c'est le moment. Jeune, maintenant, il y a tellement de performances. On doit être bon tout de suite. Il y en a un qui commence ses pistes à 2 ans. Si tu commences à 10 ans, t'es bien trop vieux. Ça, c'est triste, OK? C'est triste. Mais c'est encore la période de ta vie où tu peux essayer des choses plus facilement que quand la vie adulte arrive. Parce qu'à un moment donné, t'as peur. T'as de peur de casser les bras. T'es insouciant quand t'es jeune, donc c'est le moment. Puis ça, je l'ai en tête. Je n'ai aucun reproche à faire à mes parents. Ils ont tout fait avec ce qu'ils avaient. Puis ils ont été conjointement capables de nous élever dans une lignée, tiens. Ils s'entendaient là-dessus, ils se respectaient. Mais je sais que ça, à 31 ans... Ça m'a manqué. Ça m'a manqué dans ma jeunesse.
T'as raison. Puis vois-tu, des fois, je me demandais, est-ce que moi et la mère des enfants, on est allé trop loin puis on les a jamais poussés dans le sport élite? Mais, tu sais, au jeune âge, on a dit, faut développer leur motricité. Fait qu'on les a envoyés faire de la gymnastique.
Super.
On les a envoyés faire du trampoline. Après ça, les gars, on s'est dit, deux choses essentielles au Québec avec les hivers qu'on a, faut que les gars sachent patiner. Faut que les gars sachent faire du ski.
Pas obligé de coûter cher. Si le ski, tu pouvais pas, c'était pas grave.
Exactement.
Mais t'es envoyé dehors.
Céline était une ancienne enseignante de ski. Elle a dit, je m'occupe du ski. Toi, t'as joué au hockey toute ta vie. Occupe-toi du patin. On les a développés. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un extraordinaire coffre à outils qu'on leur a offert.
Mais oui.
Parce que les gars peuvent faire n'importe quoi.
Ils ont pas peur. Ils manquent pas d'estime à essayer quelque chose. Longtemps dans ma vie, moi, j'ai manqué d'estime à essayer des nouvelles choses. Ça a débloqué, je te dirais, à l'âge de 14, 15, 16. Là. À ce moment-là, j'avais un je m'en foutisme. Là. Mais je me rappelle que sinon, j'osais pas. J'avais le goût, mais j'osais pas. D'un coup, je me ridiculise. Puis maintenant, c'est comme un peu ma doctrine de vie. Moi, je suis prête à embarquer dans n'importe quoi, à n'importe quel moment, puis je vais m'arranger pour que ça fonctionne. Mais avoir eu ça jeune,
je serais
un autre adulte.
C'est vrai que c'est un sentiment, ça, le sentiment d'insécurité, entre guillemets, qui peut justement venir se travailler. Puis que si les parents le travaillent en jeune âge, j'ai 418-971-1001, si vous voulez nous donner votre opinion, comment vous gérez vos enfants avec l'activité physique. Parce que moi, je vais prendre l'exemple d'Eliott. Ah ouais, tu fais le football à l'école? Bah, on va l'essayer. Ah ouais, du rugby? Ah, on va l'essayer. Ah ouais, il y a ça? Ah, on va l'essayer.
Parce qu'il y a la base des capacités physiques aussi.
Exactement. Puis il a vécu des réussites, évidemment, plus jeunes, en étant justement poussé à se dire, bon, ben là, mon homme, on va patiner.
Puis il n'a sûrement pas été gêné d'essayer, donc de ne pas être super bon au début, puis après ça, de s'améliorer et tout ça, tu sais.
En plein ça.
Au niveau des maths, moi, ça a été plus long, là, la base de la maths, là. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais gêné parce que nous, de la façon dont ils nous éduquaient dans les écoles, c'est on faisait les pas de géant, fait que les multiplications, c'était dans le gymnase devant tout le monde. Puis quand tu l'as, t'avances. Et que c'était humiliant.
Ça me fait penser à les tableaux avec les notes sur le babillard.
C'est tellement humiliant, mon vrai. Faut que je comprends des fois des mesures d'éducation qui sont différentes.
Les papas ont du décrochage scolaire.
Sérieux, je veux dire, moi, ils ont tout
essayé. Moi, je repense à des gars qui ont décroché au secondaire quand ils disaient, ouais, c'est pas maintenant pourquoi ils ont décroché. Tétané qu'ils soient marqués 62 sur le tableau
devant
à côté
d'eux autres, devant tout le monde. Ça définit quitter avec une étiquette et une estime, mais... À un moment donné, ça a débloqué parce que je me faisais confiance. Je mettais plus de temps, même si je n'aimais pas nécessairement ça. Puis là, c'est venu que je me suis rendue dans des concours d'habileté au Québec, au Canada. Tu sais, je me rendais. Puis là, mes parents étaient comme, c'est qui elle? Depuis quand elle fait des concours de maths? Puis elle sera à l'Université Laval, un petit bout. Mais on m'a poussée. Puis, tu sais, j'ai été chanceuse, je le répète. Mais le programme d'éducation internationale, moi, que j'ai fait au secondaire dans une école publique où on payait un peu plus, mais quand même.
Oui, mais pas comme dans une école privée, là,
évidemment. M'a beaucoup servi parce que j'ai vu la différence aussi au secondaire. Ouais. Par la suite, surtout au cégep, quand je suis entrée. Pour moi, le cégep a été deux doigts dans le nez. La façon dont on nous faisait travailler, je trouve que c'est presque un scandale que ce soit pas comme ça au régulier aussi. Je te parle pas de la performance qui est demandée, la cotation,
la méthode,
la note là. Moi,
tu me parles de méthode,
je le demanderais
pas
à tout le monde. Ben oui. Après, si on n'avait pas 85, je pense, on se faisait kick out, là, on se faisait sortir du programme. Ça, je l'appliquerais pas au régulier. Mais la façon dont c'était fait, on était porté vers l'autre, on avait une obligation de bénévolat annuellement, puis ça faisait partie du parcours, puis on devait le faire. Moi, ça, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de mesures qui ne sont pas appliquées au régulier. Ça crée, parce que ton jeune doit être créé, oui, au niveau professionnel, au niveau des capacités de l'apprentissage. Mais si on fait que ça, puis on ne développe pas le côté humain du jeune, donc des fois de côtoyer des jeunes qui sont moins forts qu'eux dans leur propre cours, puis d'avoir de l'entraide qui est appliquée, d'avoir une façon de voir l'autre qui est moins bon, qui n'est pas discriminatoire, qui est plutôt, hey, moi, je peux t'aider là-dedans, toi, tu peux m'aider là-dedans.
Bien, c'est ce que je fais tantôt quand je disais responsabiliser.
Puis ça, c'est important.
Puis vois-tu, je disais, je m'ennuie de mon école de quartier, je tiens pour ça, parce que Edouard, lui, à son école de quartier au secondaire. Bon, il est dans un programme football, mais c'est donné dans son école de quartier. Puis un peu comme toi avec le PEI, ça nous coûte une fraction du prix que si il était ailleurs. Et là, ils ont fait un deal, la gang, ensemble. Puis c'est des amis qui ont suivi du primaire, justement, parce qu'elle est à l'école de quartier au secondaire dans le programme de football. Edouard leur a dit, « Hey, moi, là, vous êtes quatre à ne pas savoir patiner. » L'année passée, il est arrivé chez nous, il a dit, « Je leur monte à patiner. »
Ça? T'apprends pas ça dans tes cours.
Non.
T'apprends ça par des occasions comme celle-là.
Exactement. Fait que là, les gars sont allés dans des magasins usagés, sont achetés des patins, puis papa.
Mais ils étaient pas en train de rire d'eux?
Du tout.
Ils les invitaient?
En plein
au contraire.
Ils leur ont montré à patiner. En retour, il a dit aux boys, ouais, de la misère en maths pendant l'histoire. Il y en a-tu qui peuvent m'aider? Fait que c'était écœurant. Parce que là, secondaire 4, ils s'en vont à la patinoire extérieure. Ils se dépensent de l'énergie à mort, puis après ça, ils débarquent chez un ami ou dans le sol chez nous, puis ils étudient l'histoire et les maths.
T'es choyé, t'es choyé.
Sur ça, je dis, moi, je m'ennuie de l'école de quartier. Super beau texto qui est rentré, une maman. Moi, j'ai été une maman qui a toujours suivi ses enfants dans le sport et dans leur sport-études. Mais il faut être conscient que ça prend du temps. Mais je savais qu'en bout de ligne, c'était payant pour le futur et leur estime de soi. La rigueur sportive apporte beaucoup. Et ça, là, je l'entends de beaucoup de parents. Ah non! Moi, j'ai refusé que mon enfant fasse ça, ça me prendrait trop de temps. Hey, moi, là, j'ai jamais rien refusé parce que je me suis dit, c'est à moi, en tant que parent, prendre le temps. Je coach mes go ok. Des fois, Val rit de moi parce qu'elle dit, oh, tabarouette, t'es toujours en train de faire des lifts avec ton minivan. Oui, parce que je m'en fais des lifts parce qu'ils s'en vont bouger. Mais ils s'en vont faire des activités.
Des fois, il y a des parents qui n'ont pas cette possibilité-là financière, par exemple.
Ça, c'est
ça,
clair.
C'est super crève-cœur.
Ah, ça, c'est crève-cœur.
Puis l'autre affaire, si t'as pas le temps, mettons que t'es monoparental ou tu travailles très
en
fort
effet.
Pour joindre les deux bouts, ça aussi, c'est crève-cœur.
Ben oui, c'est crève-cœur aussi.
Puis l'équilibre doit être difficile en tant que parent entre la performance puis le fait de les développer. Mm-hmm. Parce que plus tu montes, plus dans une équipe, par exemple, prenons le
ben
hockey,
oui.
tu deviens élite ou je sais pas quoi, plus ça vient avec une pression de performance.
C'est clair.
Un comparatif. L'équilibre doit être très, très difficile à aller chercher, mais rien ne doit être... négligé.
Ouais. Salut mon ami Jérôme, qui je trouve tellement qu'il a fait une belle job parce que lui, il a un enfant qui était super doué, bien qu'il l'est encore là, au hockey, Raph, qui a joué dans le midget 3. Là. Puis là, malheureusement, à raison d'une blessure à l'épaule, il a dû arrêter. Mais au même moment, il y a Oli et voyons, Colin, c'est niaiseux, j'ai oublié le nom de son plus vieux, Zach, qui était dans le hockey mineur simple lettre. Il jouait contre mes gars, tout le kit. Mais lui, là, il les a montés pareil, les trois. Tu sais, dans le sens, il y en a un qui a un talent générationnel que tu sais pas trop d'où ça sort.
Ouais, c'est inné.
Mais Il n'a pas mis de pression. Il n'a pas fait sentir ses gars, ses deux autres gars, à l'écart en disant « Je vais tout investir dans lui parce que peut-être qu'il pourrait jouer dans la Ligue nationale. » T'sais. Il les a montés les trois pareils. C'est juste qu'il y en a un qui avait plein de talent. Mm. Puis là, celui qui a plein de talent, blessé une épaule. Malheureusement, il a joué 2 ans avec le gars Martin Dallaire, animateur à week-end de l'autre côté. Et c'est-tu ce que t'sais, pour montrer à quel point il a renseigné les bonnes valeurs? Ben là, son gars, il a dit « Hey, Pat, tant qu'à être blessé, moi, pas peu, puis pouvoir jouer au hockey contact, là, jamais joué avec mon frère. Penses-tu que je pourrais aller jouer avec? » Puis là, les deux jouent ensemble dans la même équipe.
Wow, c'est normal fun, ça.
C'était écœurant, donc je le salue. J'ai vraiment trouvé que c'est... Je trouve que c'est un père exceptionnel, justement, pour ça.
Très bien fait, puis très pertinent aussi comme commentaire. Écoute, je te lirai 2 autres textos qu'on a reçus avant de faire les nouvelles, mais quelqu'un qui nous dit « Combien d'enfants, moi le premier, sont sortis du secondaire en pensant être mauvais pour étudier? Ils se sont ramassés en technique, en DEP. » C'est pas une critique de sa part, mm-hmm. On a besoin de ça.
Ben oui.
Mais qui se sont rendus compte par la suite qu'il avait juste besoin d'apprendre quelque chose d'intéressant pour être bon. Mm-hmm. Puis qu'il y avait une super mémoire, une super capacité de performance, une super capacité d'apprentissage, mais ça dépendait dans quoi, puis c'était pas valorisé. Oui. Il fallait être comme bon dans toutes les matières, puis accepter que si tu n'es pas super bon dans 2-3, t'es pas bon à l'école, finalement.
Non,
ça, c'est vraiment pertinent. Quelqu'un d'autre nous dit « J'ai toujours été dans l'excellence à l'école, à tous les niveaux, cependant. Personne n'a exprimé de fierté ni d'accompagnement dans ma quête scolaire, alors je suis restée incapable de persévérance ou de discipline. »
C'est là qu'on voit que l'encadrement fait pour beaucoup. Un adulte significatif, l'encadrement, c'est pas nécessairement juste le parent. Ça peut être un adulte significatif dans un centre communautaire, à une école quelque part, qui justement fait en sorte que tu as le goût de continuer, tu as le goût de progresser. Je pense notamment à François, le coordonnateur du football à la Poly de Charlebourg, qui est aussi éducateur dans l'école. C'est un adulte significatif pour tellement d'enfants, puis ça fait en sorte qu'eux progressent, puis par la suite, là, peuvent continuer. Je trouve ça beau, la maman qui nous écrit sur les ligues sportives, elle dit « Aujourd'hui, mes deux filles coachent dans le sport qu'elles ont fait jeune et elles sont capables d'expliquer ce que ça apporte. » C'est tellement vrai. Quand tu es capable de redonner à l'autre par la suite. J'en vois plein. Moi, je suis impliqué dans le tournoi de soccer du Tricarré. Je vois plein de jeunes adultes de 20-21 ans
qui sont
impliqués bénévolement dans le tournoi. « OK, c'est beau, là, je m'en vais coacher mon équipe sur tel terrain. Après ça, je reviens, je fais le casse-croûte. » Wow, je le regarde, j'ai quels beaux adultes de demain. Donc, franchement, continuez d'interagir au 418-971-1021. On va en lire quelques textos également après la courte pause. Puis on fera des nouvelles. Pascal également au retour de cette courte pause, si tu le veux bien. Et on va conclure l'émission maintenant. C'est un beau premier, on en jase. Ça. C'est une belle conversation.
On commence l'année.
Hein? On commence l'année 2026 en philosophie pour nos enfants. Puis c'est important. Faut être présent pour nos enfants. Il faut leur enseigner des bonnes valeurs.
Oui, puis pour les nouvelles, restez là parce qu'on va reparler de Nicolas Maduro. Il a plaidé non coupable officiellement aux États-Unis.
Excellent, on parle de tout ça après cette courte pause à Boulevard 101. C'est l'émission On en jase. On en jase.